18h-19h, Time Sport avec Alexandre Seban sur Peur FM.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Time Sport, votre émission qui vous parle de tous les sports du lundi au vendredi de 18h à 19h sur Beurre FM, beurrefm.net. N'oubliez pas les podcasts hein, sur l'application, vous pouvez nous réécouter quand vous voulez. Ce soir c'est chaud les amis, on va parler NBA, les finales de conférence Est surtout, mais on va regarder aussi ce qui se passe à l'Ouest avec le qualifié déjà de Golden State et déjà en finale, certains me disent déjà dans l'oreillette, ils vont gagner c'est sûr cette année. On parlera aussi Ligue 1 ce soir, c'est l'épilogue de notre championnat. Qui va se sauver? On en parle dans quelques instants avec nos invités, nos chroniqueurs, évidemment, bien sûr. Et puis Roland Garros, ça a déjà démarré pour les qualifications. Et ce week-end, c'est chaud. Federer entre en lice dimanche. Allez, go Time Sport.
Time Sport.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Time Sport. Une fois encore, les amis, j'ai un très beau plateau ce soir avec moi. Nassim Bourras, journaliste, chroniqueur Time Sport. Comment ça va, Nassim?
Ça va très bien, la forme, et toi?
Bah écoute, très bien, pas trop dur, les fêtes, ça se passe bien.
Ouais, le retour du soleil, il fait un peu beau, bon, en espérant qu'il fasse pas trop chaud non plus, histoire qu'on puisse tenir un peu.
Il commence à faire soif, là, en fin de journée.
Il commence un peu.
À quelle heure ça finit, ce soir?
21h35, à peu près.
Voilà, baba. C'est pas fini, hein?
C'est pas fini.
On va te ménager. Tu vas pas trop parler.
Ah non, t'inquiète pas. Tu peux me donner
la parole.
Bien sûr,
là, on va te la donner, la parole.
Il y a toujours de l'énergie.
Mais oui, t'inquiète pas, Nassim. Djouba Houchen avec nous ce soir.
Bonsoir Alexandre, ça va très bien.
Ce soir, c'est une pause, c'est spécial. Tu gères pas le planning, tu viens nous parler NBA.
C'est ça, le planning, il a été géré en début de semaine et maintenant, on revient du taf pour parler NBA.
Eh ben oui, parce qu'on a un super invité avec nous ce soir.
C'est ça, un très très gros invité.
Et ouais, on a eu Georges Eddy il y a deux jours. Quelqu'un qui a travaillé avec Georges Eddy d'ailleurs.
C'est ça, sur Canal+.
Exactement, c'était il y a quelques années. On dira pas il y a combien de temps.
Oh si, tu peux y aller.
Si.
ça a commencé il y a quoi? Il y a 20 ans maintenant.
Une vingtaine d'années, c'est ça, 20 ans.
Ouais,
Xavier Vaution, les amis, bonsoir.
Bonsoir.
Comment
ça va?
Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous.
Avec plaisir.
Vraiment, on va parler NBA dans une dizaine de minutes après la Ligue 1, mais je crois savoir que vous êtes calé aussi football. Pas que NBA.
Ouais. Je le dis pas trop.
Bon. On va voir s'il vous reste encore des billes.
Oui, 2-3.
Et Brice Tailly qui est avec nous ce soir, comment il va?
Bonsoir Alex, ça va très bien, écoute, vendredi, il fait beau, on est content, c'est le week-end.
C'est là, mais t'es encore chaud, rassure-moi.
Comment?
T'es encore chaud?
Je suis encore très 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 chaud.
Il y a du lourd aujourd'hui encore.
Il y a du lourd, on va parler NBA, ça me plaît beaucoup, j'ai plein de questions pour Xavier, donc cool, c'est super.
Gardons un petit peu sous le pied, tout d'abord, c'est la Ligue 1, c'est le ras-le-bol du sport.
Time Sport, le ras-le-bol.
Le championnat de Ligue 1, Conforama. Il faut dire Conforama, c'est obligatoire maintenant. Rendra son verdict ce soir, les amis, dernière journée, 38e journée. Voilà, il y a moins de suspense, évidemment, en haut du classement. Tout est joué. En bas, par contre, vous allez le voir, il y a du très lourd qui se joue avec Caen, Dijon, Amiens, Monaco qui peuvent espérer se sauver in extremis. Première question, Nassim Bourras. Qui va se sauver ce soir?
Déjà, je vois bien Monaco. Je vois bien Monaco parce qu'au bout du suspense, ils n'ont pas un effectif pour descendre. Même si la saison a été extrêmement compliquée, même s'ils n'ont pas l'effectif pour jouer le... qui n'a pas l'habitude plutôt de jouer le maintien. Je les vois bien se sauver. Et puis surtout, ils ont un petit matelas. Il me semble que voilà, ils ont 5 points d'avance sur le premier relégable direct, c'est-à-dire Dijon. Donc voilà, ça leur offre déjà un bon matelas déjà pour éviter la relégation par barrage. Qui sont d'ailleurs, ils sont juste à 3 points de Caen qui occupe cette place. Donc voilà, normalement ça devrait le faire. Après, voilà, je pense que ça va jouer surtout entre Amiens, Caen et Dijon pour les deux places barragistes et relégation directe.
Un petit point sur le classement avant d'enchaîner avec toi, Djouba. 16e Monaco, 36 points. 17e Amiens, 35 points. Caen, 18e avec 33 points. Et Dijon, 31 points. 19e, puisqu'on le sait déjà, Guingamp, c'est la Ligue 2 l'année prochaine. Caen reçoit Bordeaux. Nice accueille Monaco. C'est chaud quand même, Nice-Monaco, c'est le derby. Djouba, tu vois Falcao pour sa dernière, a priori, à Monaco.
Ouais, mais je pense
sortir
que
la principauté de
face à Bordeaux, je pense
la situation.
Je pense que Caen va pas gagner face à Bordeaux, donc je pense que de toute façon Monaco sera sauvé et que le classement va pas changer en bas de tableau. Faudrait que Dijon et Caen gagnent pour passer devant Monaco.
Dijon joue à domicile contre Toulouse.
C'est ça. Mais Dijon a trop d'écart avec Monaco. Il y a 5 points. Donc il faudrait que Caen gagne, que Amiens gagne et que Monaco perde. Je ne pense pas qu'on aura tout ça ce soir.
À la limite, au maximum, je vois plus Dijon prendre la place de Caen de barragiste. Mais je les vois très mal sortir directement de la zone barragiste relégation.
Et Falcao alors ce soir ? Le grand match du Tigre ?
On va dire que lui, il a fait sa saison par rapport aux autres. Il a eu quelques blessures, mais au moins il était présent. Dans un match comme ça, un peu un enjeu, je pense que c'est là qu'il doit ressortir. On l'annonce du côté de l'Atlético et de Valence. Je pense que pour une dernière danse, ça serait beau qu'il sauve l'AS Monaco.
Brice, qu'en penses-tu ce soir, l'épilogue du championnat, la bataille pour le maintien ou bien la place de barragiste? Tu vois quoi? On a quand même l'impression que Caen, face à Bordeaux, avec Roland Courbis à la tête de l'équipe, ils ont peut-être un peu plus l'habitude que les autres de ce genre de situation.
Je suis tout à fait d'accord avec toi pour Caen. Je pense que Caen a l'habitude effectivement de ces combats. Ils sont prêts mentalement. En plus, ils sont face à Bordeaux. Je crois qu'il est dans une mauvaise dynamique. Il y a 6 défaites consécutives, il me semble.
Ouais, ça fait 8 ans qu'ils sont dans une mauvaise dynamique, Bordeaux.
Effectivement, c'est vrai que ça fait... c'est pas très cool pour les amis bordelais. Mais c'est vrai que c'est un club. Enfin, il se passe plus rien là-bas. Bon, c'est une catastrophe.
On va c'est pas y revenir. C'est très bien dit. Il se passe plus rien.
Il se passe plus rien. Ça. Malheureusement, quand on parle plus trop d'un club, c'est pas bon signe. Effectivement, je pense que Caen est calibré pour ce genre de combat. Monaco, a priori, il y a pas de souci à se faire. Je crois qu'ils ont au niveau du Golavra, je crois qu'il y a 7 buts d'écart, donc
ils ont même 5 points d'avance en plus. Donc
non, mais par rapport au barragiste, je pense que Monaco sera pas dans la charrette. Donc à mon avis, ça va jouer vraiment entre Dijon, Caen et Amiens. Moi, je pense que je vois plus Amiens effectivement en difficulté. Bon, effectivement, on sait que Amiens reçoit Guingamp, c'est ça ?
C'est ça.
Guingamp est déjà condamné.
Ouais, déjà mort. Ouais. Enfin mort.
Mais bon. Voilà, Gourvennec a annoncé. Enfin, Gourvennec sera pas en Ligue 2. On sait jamais. Guingamp a peut-être envie aussi de finir sur une bonne note. Je sais pas, moi je sens Amiens.
Monsieur Vaution.
Ouais.
Le bas de tableau, Caen, avec Monsieur Courbis à la tête de l'équipe, ou pas, ça dépend des polémiques. Monaco, Amiens, comment vous voyez-vous cette dernière journée? Ce soir, ça risque d'être chaud. Là, il y aura la petite musique que vous avez connue il y a une petite vingtaine d'années.
Ouais.
Le faire aussi. Abine aussi, qu'on est prêt pour ce soir.
Oui, tout est prêt pour le dernier multi de la saison. Et celui-là, on va évidemment se concentrer là-dessus. Je vous cache pas mon inquiétude pour Monaco.
À Nice, ça risque d'être chaud.
Bah parce que c'est à Nice, c'est exactement ça, et parce que les Niçois, même s'ils n'ont plus rien à jouer, et que bah si ils ont un truc à jouer, c'est le derby. Donc si je dois mettre une pièce quelque part, je la mets sur Nice là pour le coup, parce que je vois bien Nice faire quelque chose. Mais j'espère que Monaco va s'en sortir. On a besoin de Monaco en Ligue 1, on a besoin de Caen aussi en Ligue 1, je pense. Et j'ai suffisamment de connaissances à Amiens pour leur espérer que du bonheur. Donc je suis un peu embêté en fait pour ce soir. Je vais pas passer une bonne soirée quoi qu'il arrive.
Évidemment, ça va être chaud hein, dans certains stades. Il y aura des larmes évidemment, et il y aura de la joie. Ça c'est que des poncifs, mais en même temps, ce soir, c'est la dernière journée de championnat. Et au-delà de cette course au maintien, globalement, Brice, tu as pris du plaisir dans cette saison de Ligue 1.
Pour être honnête, honnêtement, c'était pas fou, honnêtement. On savait dès le début de saison que Paris allait être champion. Ils ont été champions. La fin de saison a été cataclysmique. À partir du moment où on a passé la remontada de nouveau, il fallait que ça se finisse. Derrière la course à l'Europe, moi je me souviens il y a quelques jours ici, moi je disais que je chantais pas trop synthé. Encore une fois, en fait, on a les mêmes problèmes en Ligue 1. On a des équipes pas assez ambitieuses. Et je parle pas que du budget, je parle aussi du projet de jeu. Je parle de l'envie justement d'aller se qualifier en Europe et de faire quelque chose. Et on a vu que les Stéphanois sur la fin, ils ont craqué parce que je pense qu'ils en avaient pas assez envie. On a vu une équipe de Lyon qui...
C'était un match particulier ce soir-là. Contre Montpellier à domicile, Alex. Il y a eu...
C'est un championnat, donc en fait c'est sur la saison et il faut avoir envie. Quand t'as l'occasion de passer devant ton rival historique et que tu dis, mais si on finit quatrième, c'est quand même bien, moi ça me déplaît. J'aimerais en fait une équipe de synthé et d'autres équipes même en général plus ambitieuses. On voit en fait Lyon cette année qui était largement abordable aussi pour les autres et qui en même temps Lyon sur le papier était l'équipe qui était censée challenger Paris. C'est donc vrai. Voilà, en fait c'est plein de déceptions. Voilà, c'est une saison qui traîne en longueur. Bon là on a quand même un peu de suspense pour savoir qui va aller en Ligue 2. Mais globalement je trouve que c'est une saison assez décevante.
Tu retiendras quoi toi Nassim de cette saison?
Je voulais d'abord répondre par rapport à Brice. Déjà Saint-Etienne, est-ce qu'ils ont les moyens de leur ambition? Quatrième pour eux, effectivement, c'est une bonne place.
Tu veux dire financier ou tu veux dire moyen général
moyen
au niveau
humain,
de l'effectif?
Moyen financier.
Mais non, mais regarde l'effectif, c'est quand même un bel effectif.
C'est un bel effectif.
Et au-delà de ça,
mais est-ce que c'est un effectif qui peut viser les trois premières places en début de saison?
On mais
peut pas se le
ça,
dire ça.
Au-delà de ça, sur l'envie, sur la ferveur, sur les joueurs que t'as, en fait, t'as quand même des,
oui,
t'as quand même des Mvila, t'as quand même des Debuchy.
Pas de souci.
T'as des Casri, t'as des super joueurs. Quand t'as l'occasion d'aller chercher Lyon, tu dois aller te déchirer,
oui,
tu dois aller la chercher, tu dois avoir envie, tu dois l'annoncer en conférence de presse.
N'oublie pas que Saint-Té sort d'une période assez creuse après le départ de Galtier. C'était plus que compliqué avec les entraîneurs qui partaient, qui arrivaient. C'était tendu, Gasset est arrivé, il a réussi à insuffler une dynamique, une stabilité. Il a réussi à ramener le club au niveau européen, donc il sera en Europa League la saison prochaine.
Pour faire quoi?
C'est
faire quoi,
c'est déjà très... Ça après, ça sera la politique du club. D'ailleurs, il va partir.
C'est embêtant.
Le problème ne vient pas vraiment de Saint-Té, mais il vient plutôt des autres clubs, que sont par exemple Marseille, Lyon. Eux, ces clubs-là...
J'en parle même pas de Marseille, parce que
bah,
là, ça va être terrible.
Ces deux clubs...
On va essayer d'en parler quand même, les gars, de Marseille, non, un petit peu, non?
Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un désastre
Marseille,
absolu.
Par, Marseille est un finaliste d'Europa League. Marseille est une
l'année
équipe
dernière.
qui aurait dû faire quelque chose, surtout avec ce pari malade en fin de saison. Imaginez juste un Marseille et un Lyon au niveau de Lille, qui a été très régulier et d'un très bon niveau cette saison. On aurait pu avoir un final
alors,
de
attends,
folie.
Alors, attends, je vais quand même te couper un petit peu, mon cher. Attends. Pari malade, je veux bien. Ils ont pris une grosse gifle à domicile face à Manchester United. Mais tout de même, même s'il y avait eu, et même s'il y a l'élimination, les autres concurrents auraient pu tirer la bourre. Certes, mais Paris se serait remotivé plus rapidement. Là, ils étaient tranquilles.
La preuve, c'est que Lille a fait une très très grosse saison. On le dit tous ici à chaque fois.
Ils ont d'ailleurs été meilleure équipe en phase retour.
Voilà. Et Paris a été moyen. On dit tous que depuis la remontada, ça a été bof ou quoi. Il y a 16 points d'écart avec le deuxième. Paris a un matelas, mais c'est même plus un matelas.
Mais regarde les matchs.
C'est extraordinaire.
Comment tu peux aller prendre 5 buts à Lille? Je veux bien que Lille, après, c'est.
Tu peux
c'est
pas
super.
Prendre 5 buts à Lille, mais il faut pas oublier le début de saison où il y a je ne sais combien de victoires d'affilée, où le championnat est plié au bout de 10 journées. Et donc voilà, il ne faut pas tout oublier.
Je
ne
veux pas rabaisser
sur la saison de Ligue 1 du PSG. La saison
super,
de Ligue 1 du PSG, elle a été bouclée. C'est en dehors de la Ligue 1 que là, ça a merdé en quelque sorte.
Pas que. Si tu 37 ans, c'est super. Mais quand tu as un record de points à aller chercher. Non mais même quand tu peux aller chercher
un peu la mousse sur le record de points, tu m'excuses, c'est pas important.
Tu peux aller chercher le titre, tu peux aller chercher le titre sur le terrain du deuxième, tu peux quand même aussi envoyer un message. Tu finis, tu te prends à 5 buts à 1 à Lille. Plus les affaires extrasportives. Sérieusement, c'est calamiteux. Enfin voilà, on peut pas me dire que ça a été une saison de Ligue 1 inoubliable. Voilà, c'est enfin tu nous demandais notre
c'est pas la faute du PSG parce que là on tire beaucoup sur le PSG mais je pense que si la Ligue 1 a été catastrophique, c'est pas la faute du PSG. On a Lyon qui a été très moribond et qui fait une saison. Je regarde tous les matchs de Lyon, je suis supporter, mais l'irrégularité
dans ta vie privée, pas au micro.
Extraordinaire, c'est l'irrégularité de cette équipe. Ouais. C'est ça qui te fausse la Ligue 1 avec Marseille qui est radé pas crête, c'est gentil encore. On a eu Nice qui avait fait une grosse saison qui est tombée dans l'oubli, Monaco qui se bat pour la relégation alors qu'on les voyait tous sur le podium. Voilà, c'est à cause de ces équipes-là que la Ligue 1 ne progresse pas.
Un peu de sourire, les amis, avec Lille, peut-être, qui nous a quand même régalé avec du jeu. On s'attendait pas à ce que Lille, après la saison dernière, ça explose.
Il est éphémère, le sourire lillois. Pourquoi
tu crois qu'il n'y en aura pas l'année prochaine?
Déjà, on annonce quasiment une bonne partie des joueurs sur le départ, notamment Nicolas Pépé qui a fait le bonheur de cette équipe lilloise.
Ça, c'est acté.
Il est justement là, le problème. Est-ce qu'on sait
tous. C'est Gomendes aussi.
Lille n'est pas une équipe, déjà, ne serait-ce que par rapport à leur dirigeants, Lille n'est pas une équipe capable de garder leurs joueurs. Ils sont déjà dans une politique de trading de base avec l'arrivée des nouveaux dirigeants. Donc déjà là, à partir de là, tu te dis, déjà en tant que supporter lillois, ça va être compliqué pour la saison prochaine parce que la plupart des joueurs à fort potentiel, que ce soit technique ou financier, vont partir pour des plus gros clubs. On annonce déjà Nicolas Pépé du côté du Bayern, du côté de Manchester. Ça pose déjà problème.
Le président a dit récemment qu'il n'y aurait pas non plus 54 départs. Il a dit 2 ou 3. Galtier l'a dit chez nos confrères il n'y a pas longtemps de RMC. C'est 2-3 maximum, mais pas 4.
Mais il suffit que 3 joueurs majeurs partent de ce 11 de départ pour que ça chamboule tout. On l'a déjà vu avec Monaco. 3 joueurs essentiels à ton 11 de départ,
Toi, tu n'y crois pas à la patte Galtier. Tu te dis, ça y est, c'est terminé.
Mais ça peut retomber aussi.
C'était grâce à Pépé, c'était grâce à Intel.
Il ne faut pas oublier que ça jouait la relégation aussi il y a deux ans. Donc ça peut descendre aussi vite que c'est monté. Si Pépé part, si un Bamba ou un Ikoné s'en va aussi, un Thiago Mendes.
Vous ne croyez pas à la pérennisation de cette équipe?
On parle beaucoup des départs, Alex, mais quid des arrivées? Tu vas jouer la C1.
Ça, évidemment.
Non, mais tu vas jouer la C1, donc tu as 6 matchs minimum en poule. Avec qui tu les joues? Et avec quelle ambition? Encore une fois, c'est la même chose. Moi, j'ai commencé tout à l'heure par partager un peu synthé. C'est ça, en fait, qui m'agace dans cette Ligue 1, cette Ligue des Talents, qu'on essaye de nous vendre là-dessus. Il n'y a pas d'équipe qui soit ambitieuse. Il n'y a pas d'équipe qui vont te dire, tu sais quoi, on a l'occasion d'aller chercher une place sur le podium, on va le faire. On va essayer un peu de dépasser un peu ce qu'on attend de notre part en début de saison. C'est ça qui me dérange. Et c'est pour ça aussi que je taillais.
Équipes sont trop frileuses et respectent trop le PSG.
T'en as une seule qui veut vraiment essayer de concurrencer le PSG, c'est Lyon. C'est Lyon qui a essayé d'ailleurs de faire une politique annexe avec la construction d'un stade qui a justement coûté beaucoup d'argent, d'où la vente des Lacazette, Tolisso. Mais derrière, c'est l'équipe la plus proche de pouvoir batailler avec le PSG. Mais derrière, les équipes comme Marseille, qu'est-ce qu'ils font de leur acquis européen? Par exemple, une finale d'Europa League, t'es censé capitaliser là-dessus pour pouvoir viser derrière une Ligue des Champions comme le font d'autres équipes, comme Séville par exemple. Qu'est-ce qu'ils font derrière? Ils sont dans l'incertitude la plus complète alors qu'on parle d'une équipe qui est finaliste de l'Europa League il y a deux saisons. Il y a un problème.
Il y a un problème, t'as raison, j'ai mis un coup de poing dans mon micro, il y a un vrai problème. Non, sérieusement, un dernier mot de Djouba sur l'Olympique de Marseille, le départ de Rudy Garcia, bonne, mauvaise chose selon toi, ou il fallait laisser une dernière chance à Rudy?
Non, c'est une chose obligatoire son départ, et je pense que c'est tout l'organigramme qui aurait dû être changé en même temps. Faut garder Zubizarreta aux manettes, mais faut reconstruire quelque chose, faut une vraie reconstruction. Le problème, c'est qu'à Marseille, on sait que la reconstruction, ils connaissent pas, et il faut gagner tout de suite.
Il n'y a pas d'argent.
Ils vont garder leur meilleur joueur, apparemment.
Ça va les mener. T'as pas l'Europe, t'es très mal. T'es pas attractif et t'as pas l'argent.
Eh bien, écoutez, merci, les amis, pour ce premier débat. Un petit peu animé, quand même. Hein. Calmez-vous. Non ? Non, je rigole. On va repartir de plus belle dans quelques instants. On se retrouve sur Beurre FM, les amis, dans Time Sport pour la NBA.
18h-19h, Time Sport avec Alexandre Seban sur Beurre FM. 18h-19h, Time Sport avec Alexandre Seban sur Beurre FM.
Allez, on est de retour ici près de Paris dans notre studio flambant neuf de Time Sport pour la suite de l'émission avec Brice Tailly, avec Djouba Houchen, avec Nassim Bourras et avec notre invité Xavier Vaussion. C'est l'incroyable mais vrai du jour, les amis, on va parler NBA.
Time Sport.
Et on n'oublie pas évidemment Time Sport sur Beurre FM, beurrefm.net et l'application pour les podcasts ou nous écouter en direct, bien sûr, avec votre application sur les smartphones et les tablettes. L'invité du jour, chers amis, Xavier Vaussion, est avec nous, journaliste sportif spécialisé en basket NBA.
Oui.
C'est ce qui se dit.
C'est ça.
Passé par TF1, stagiaire, on m'a dit.
Ouais, c'est vrai.
Canal+, et désormais beIN Sport, avec cette super émission NBA Extra présentée par notre consoeur Marie Patrux. Première question, monsieur Vaussion.
Oui.
Avant d'en savoir un peu plus sur votre parcours, votre carrière. Qu'est-ce qui s'est passé à Milwaukee hier soir? Ils ont eu peur de gagner ou pas?
Je sais pas, j'arrive pas à me l'expliquer moi-même, je sais pas. Ce qui est terrible dans cette série, c'est qu'ils étaient vraiment à la porte de mener 3-0. Un match en double prolongation, le troisième match, le 3-0, il était là, à 3 minutes près, il était là. Bah depuis, ils ont tout perdu. Et donc, prochain match à Toronto, ouais, je crains le pire pour Milwaukee. Ouais.
Ouais, avec un super Kawhi Leonard qui a été très bon, qui a retrouvé ses deux jambes, apparemment.
Oui, apparemment, ça va beaucoup mieux en deux jambes.
Et le réveil de Van Vliet, là, à 3 points, il n'était pas bon depuis le début.
Là, 7 sur 9 hier soir. 7 sur 9, il me semble, hier soir.
7 sur 9 hier soir, exactement. Ouais.
Balle de match demain, d'ailleurs, pour les
Raptors.
Demain, 2h30,
c'est le week-end, hein, de toute façon.
Oui. Tranquille.
Pour ceux qui veulent suivre à la télé, par exemple, 2h30 du matin, sur beIN Sport.
On peut faire des chiffres à cette heure-là, on peut tout faire.
Absolument. Les enfants sont couchés.
Voilà. Là, au moins, on est tranquille. Non, mais ça va être un très, très grand match. Mais je reste persuadé que ça va finir en 7 matchs, je sais pas.
Ouais,
j'ai envie en tout cas, j'ai vraiment envie que ça aille loin.
Il manque pas grand chose en plus pour que ça aille loin. Milwaukee, il faut qu'il se réveille. Je pense que celui qui doit se réveiller, c'est surtout Chris Middleton. On le voit depuis le début de la série, c'est une catastrophe. Hier encore, il était à 6 points, 6 ou 9 points
Ouais. Mais c'est ce que j'ai dans l'émission tout à l'heure, c'est que, ok, c'est vrai, ok, il met toi à côté, c'est pas faux. Mais au moins, il prend pas trop de tirs et surtout, il donne des passes. Et hier, il fait 10 passes décisives, ce qui doit pas être loin d'un record en carrière pour lui. Donc au moins, il sait qu'il est pas bon, donc il va donner le ballon. Et ça, c'est assez important. Mais après, normalement, t'en as d'autres hein, qui doivent le faire. Brogdon ne fait rien.
Les remplaçants sont fait manger par ce Toronto.
Voilà, exactement. Alors qu'à la base, normalement,
le banc de Toronto, Ibaka, Van Vliet, comme on l'a dit, il y en a qui se sont réveillés, alors qu'à Milwaukee, il y en a pas un qui dépasse les 10 points.
Et pourtant, Milwaukee était devant à chaque fois. Enfin, c'est les Raptors qui ont couru un petit peu après le score et puis jusqu'au comeback final, quoi.
Ouais, voilà, ils ont très très bien démarré le match, ils ont pris une dizaine de points d'avance et puis après Toronto a recollé et puis c'était vraiment très très serré jusqu'à la fin, jusqu'au moment où Toronto fait le petit écart décisif finalement.
Score final 99 pour Milwaukee, 105 pour les Toronto Raptors. Demain, c'est à Toronto, au Canada, que ça se joue. Balle de match, parce qu'il y a 3 points à 2 pour les Toronto Raptors. On va revenir après sur les matchs de NBA et ses finales. On va s'intéresser un petit peu à vous, Xavier Vaution. Donc, journaliste depuis une petite vingtaine d'années, qu'est-ce qui vous a...
Pas petite.
Ce que je me disais aussi.
Ça, c'est pas gentil, ça.
C'est ça. Non, mais c'est en 98. Donc
ouais, 98, oui, c'est pas, on n'est pas là, 21 ans. Voilà. Qu'est-ce qui vous a décidé de vous lancer dans ce métier, vous? C'était écrit, on va dire. Vous étiez.
Mais pas du tout.
T'es un reporter depuis que vous étiez petit.
Non. Alors, pas du tout. Moi, je voulais être kiné, moi, au début, quand j'ai fait mes études. Donc, mais j'ai vu que. Bon, j'étais pas super fort en maths, tout ça. J'étais vraiment pas assez fort. Et mon directeur de l'époque m'a dit: mais pourquoi tu ferais pas journée sportive? T'arrêtes pas de parler de sport, tu lis les journaux tous les jours. Et puis, j'ai fait le journal de l'école et tout. Et puis, je me suis dit: tiens, ouais, pourquoi pas, on va essayer ça, quoi. Et le tout premier journal qu'on sort, la couverture, c'est Michael Jordan. En une, j'avais mis Michael Jordan. Donc, je me suis dit que finalement, quelque part, ouais, il y a peut-être un petit bout qui était écrit finalement. Ouais.
Et premier stage à TF1, je crois que vous avez bazardé vos examens de, je crois que c'était quoi, c'était du droit ou.
Non, non, c'était l'école de journalisme, première année. Et ils m'ont dit, c'est simple. Ils m'ont dit, soit tu fais ton stage et tu redoubles.
C'est ça.
Soit tu vas en deuxième année. J'ai dit à l'année prochaine, je ne ferai pas en première année, les gars.
C'est important, n'empêche.
Ça se refuse pas, quoi. C'était juste pour faire la Coupe du Monde de foot à TF1. Okay,
c'est donc, très important, les stages dans ce métier au départ. C'est là où on commence un petit peu à faire ses premières armes et à faire ses premiers contacts. Et c'est hyper important.
Ah oui, parce que c'est ces premiers contacts qui m'ont ensuite amené à Canal. Et puis les contacts que j'avais à Canal m'ont ensuite amené à Bein. Donc bien sûr.
Avec un certain Hervé Matou.
Exactement, bien sûr, c'est Hervé qui est à la base de tout ça, oui.
Et pourquoi le basket finalement? Parce que c'est vrai que le sport numéro un en France, c'est le football. Est-ce que vous étiez déjà très basket ou pas forcément?
J'étais vraiment très omnisport.
D'accord.
Je suivais beaucoup, beaucoup le foot. Mais j'étais très attiré par, plus que le basket, par les sports américains. Parce qu'il n'y avait pas que le basket, il n'y avait pas que la NBA, il y avait aussi la NFL. Même la NHL, le hockey me chatouillait un petit peu. J'avais envie de voir ça, je regardais ça sur Canal. Et puis, je sais pas, les États-Unis, ouais, c'est un truc qui m'a toujours plu. J'essayais, en tout cas, de faire des voyages. Mon premier, c'était en 96, donc c'était vraiment juste avant de commencer. Mon premier match, c'était Philadelphie-Charlotte, je peux vous le dire, parce que j'ai retrouvé le ticket il y a pas 15 jours. $12, j'avais payé.
Oula.
Oui, ouais, ça a changé, par contre.
Ouais, je crois que c'était x10.
$12.
Pas dans le bon sens, malheureusement.
Et puis voilà, non, parce que très culture urbaine, parce que j'écoutais beaucoup de hip-hop, etc. Et je trouvais que tout se mélangeait très, très bien. Et ça fait un peu cliché, je vous l'accorde, mais en tout cas, c'est comme ça que ça a l'air marché.
Nassim, une question peut-être?
Déjà, je suis un grand fan de votre émission NBA Extra. Elle explique vraiment tout ce qui se passe dans l'actualité du basket et de l'NBA. Moi, ce que je voulais savoir, ce qui m'a frappé justement dans cette émission et dans l'aura qu'ont les consultants, c'est que comment expliquer déjà qu'il y a aussi peu de critiques de la part de l'écosystème des fans, des réseaux sociaux vis-à-vis de NBA Extra, comparé à ce qu'on peut trouver dans le football où, par exemple, c'est très, 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 très acerbe, très violent, ce qu'on peut avoir, par exemple, vis-à-vis des fans sur les consultants. Est-ce que vous voyez qu'il y a une différence par rapport au traitement de l'information sur le basket par rapport à celui du football en France?
Je pense pas que ce soit je sais pas. Alors, déjà, à mon avis, NBA Extra, il y a plusieurs choses. Déjà, on est seul sur le créneau. Il pourrait très bien avoir de la concurrence. Moi, je connais pas d'autres quotidiennes de basket, donc on n'a pas de concurrence. Et je crois qu'on fait ça de manière la plus
plus ouverte, simple, détendue, et tout en n'oubliant jamais les spécialistes, mais en n'oubliant surtout pas celui qui nous regarde pour la première fois. Et donc c'est un ensemble de tout ça, mais je crois qu'en fait on a une équipe qui est tellement rodée, qui sait tellement bien travailler, qu'on arrive à être juste naturel en fait à l'antenne. On est au bureau comme on est à l'antenne, hein, c'est vraiment ça change absolument pas.
Oui, ça s'entend d'ailleurs dans le ton de l'émission.
Et ça, on rigole pas avec ça. Au contraire, on rigole avec tout même d'ailleurs. Et non, je sais pas. C'est vrai que par rapport aux autres émissions de foot, mais des émissions de foot, on a partout. T'en as radio, et puis de toute façon, le but du jeu aujourd'hui, c'est de faire le buzz. Donc, à la première connerie, justement, bah, c'est ça qui va faire parler. Et nous, on n'est pas du tout dans l'idée de faire du buzz. On se contente de l'info, parce que je pense que c'est simplement la base du métier, en fait. Donc, c'est pas chez nous qu'on viendra entendre un buzz.
L'info et la passion, évidemment, pour cette NBA.
Évidemment, oui.
Qu'est-ce qui vous a marqué depuis 20 ans dans l'évolution de ce sport, de cette NBA américaine? On a vu passer des très très grandes stars. Vous avez vu le Shaq, vous avez vu Kobe, vous avez vu d'autres. Aujourd'hui, on est la génération Curry. Qu'est-ce qui vous marque depuis 20 ans là?
Moi, ce qui marque, c'est simplement quand je me promène dans la rue, que je vois des gamins avec des ballons de basket, ce que je voyais déjà un petit peu à l'époque, fin des années 90, c'était la grande époque Jordan.
Bien sûr.
Ça se voyait un petit peu, mais là, ça se voit beaucoup. Les playgrounds sont blindés. Je vais pas dire que c'est grâce à nous, hein. C'est grâce à la NBA, c'est grâce au fait qu'aujourd'hui Bein diffuse 2 matchs par jour. C'est quand même pas rien par rapport à 2 matchs par semaine juste avant. Et voilà, aujourd'hui la NBA, on a l'impression que c'est quelque chose qui ne se vit plus la nuit mais qui se vit le jour. Je veux dire, on diffuse les matchs le matin entre 9h et 14h avec l'émission à cette heure-là, plus les replays. Et si c'est Bein Connect, en plus de ça, vous avez la possibilité de revoir les matchs. Il y a le NBA League Pass où justement aujourd'hui maintenant on a accès à tout, on a accès à toutes les images, et donc c'est pour ça aussi que ça marche de mieux en mieux. Mais on a une énorme communauté basket, on a aussi une communauté de gens qui aiment ça sans être forcément des basketteurs, qui aiment ça juste pour le côté spectaculaire et juste parce que c'est le meilleur basket du monde, quoi.
Djouba.
Ouais, moi, par rapport à cette évolution, du coup, par rapport, tu disais qu'il y a deux matchs par soir qui sont présentés au lieu de 2 matchs par semaine. Est-ce qu'on peut s'attendre à, dans quelques temps, avoir plus que ça et avoir plus de matchs? Parce que, par exemple, moi, mon cas, quand je me réveille la nuit, je regarde les 2 matchs qui sont proposés, mais j'ai envie d'aller voir un autre match, j'ai envie d'aller voir mon équipe, par exemple. Est-ce que ça,
30
ce sera
secondes
possible
pour répondre.
D'ici quelques temps?
Pour ça, il y a le League Pass, donc c'est pour ça qu'avec la NBA, on marche main dans la main. Je sais que quand on ne parle pas forcément anglais ou espagnol d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de langues espagnoles. Moi, j'ai des projets, j'ai des idées pour l'avenir et oui, pour avoir plus d'images encore. Ouais. Okay, là, je ne peux pas en parler aujourd'hui, ça ne sera pas avant 10 ans à mon avis, donc tu sais.
Mais t'inquiète, on attendra.
On est patient.
Écoutez, on se retrouve les amis dans quelques instants. On va évidemment rester avec Xavier Vaution pour la suite de cette interview. On va continuer à parler NBA. On s'intéressera encore un petit peu évidemment à la vie de notre invité et au match qui arrive demain soir et à la grande finale face aux Golden State Warriors. On va en parler. Et on m'a dit aussi les transferts.
Ah.
Ça va être chaud cet été.
Ah, c'est possible.
Il semblerait que le LeBron du côté de Los Angeles, un LeBron J, qui est chaud patate. À tout de suite.
18h-19h, Time Sport avec Alexandre Seban sur Beurre FM. 18h-19h, Time Sport avec Alexandre Seban sur Beurre FM.
Allez, on est de retour dans Time Sport, les amis, avec Xavier Vaution, un des meilleurs spécialistes de basket NBA, entre autres, avec nous, ici, sur ce plateau. Xavier, Milwaukee, Toronto, qui est le mieux placé pour embêter les Golden State Warriors en finale?
Moi, je pense que Milwaukee a plus d'armes pour embêter les Warriors. Le problème, c'est que Milwaukee n'est pas parti pour se qualifier pour les finales NBA. Et ça, c'est un problème. Je sais pas, j'ai toujours pensé que leur profondeur de banc pouvait vraiment, vraiment embêter les Warriors. Ils ont 4 arrières qui peuvent faire de grosses tâches défensives, et c'est les Bezzo, les Brogdon, les George Hill, tout ce que vous voulez, même les Connaughton peuvent faire des choses. Ils ont vraiment tout ce qu'il faut pour aller les chercher et les embêter. Ils seront pas favoris évidemment, mais il y a un truc. Maintenant, Toronto joue tellement bien en ce moment. Le Toronto que j'ai vu la nuit dernière, C'est pas mal. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura plus de suspense que l'année dernière, quoi qu'il arrive. Hein.
Parce que là, c'était difficile de faire.
Et l'intensité de ces matchs entre Milwaukee et les Toronto Raptors ne va pas, dirons-nous, phagocyter la fraîcheur pour la finale face à Golden State ? Quelle que soit l'équipe qui s'en sort.
Normalement, non, même si là, le rythme est quand même très élevé en ce moment. Les Warriors, pendant ce temps-là, eux, ils sont en train de rouiller, hein, ils jouent plus. Donc je pense que pour démarrer une finale NBA, mieux vaut avoir joué il y a deux ou trois jours, ouais, que ne pas avoir joué depuis 10 jours.
Brice, une question sur le projet LeBron James, cher ami à Los Angeles.
Déjà au départ, quand LeBron est parti à LA, on se demandait un peu ce qu'il allait faire. On a l'impression qu'en fait, ça va au-delà du basket. C'est un projet un peu Hollywood. Et maintenant, on parle de beaucoup de choses. Bon, c'est le bazar en coulisses et on parle de beaucoup de gens. Moi, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, Xavier. Comment, en fait, le projet peut repartir
à grosse équipe ou pas l'année prochaine à Los Angeles?
Comment entourer et qui pour entourer LeBron? Qui est compatible aussi avec LeBron?
C'est extrêmement compliqué. Parce que maintenant, il y a quand même cette idée de jouer avec un LeBron qui n'est plus très jeune. Qui ne va évidemment, enfin, dont on va commencer à voir un petit peu le déclin si on l'a pas déjà commencé à le voir.
Ça a commencé, hein, un petit peu, malheureusement.
Il y a la blessure, c'est vrai qu'il n'avait jamais connu de blessure jusque-là, de blessure aussi sérieuse. Donc, on peut se poser des questions maintenant. Il va activer des pistes, ça c'est sûr. On peut quasiment être sûr qu'un Jimmy Butler sera contacté si jamais Jimmy Butler a envie. Moi, je pense toujours très fort à Kyrie Irving, quoi.
Ah ouais. C'est hyper curieux quand même. Enfin, qu'ils repartent comme
ça en mode
déplan.
Là, j'ai un fan de Celtics à côté de moi, là.
qui est très très mal.
Ouais,
très
de très mal, tu vois. Là.
Il est très très mal.
Oh, attends, ça va. Mais bon.
Non, mais c'est curieux pour parce que ça a pas trop de sens. En fait, on sait pourquoi Kyrie est parti aussi à l'époque.
Des cas, ce sera un énorme aveu d'échec.
Et là, c'est un aveu d'échec. Enfin, pourquoi il repartirait jouer le lieutenant? Bon, après, je pense qu'il veut prendre sa bague. Peut-être qu'il en a marre aussi.
Oui, il l'a quand même.
Il veut marquer l'histoire, remettre avec le meilleur aussi, avec LeBron, par exemple. Pourquoi pas? C'est un gros challenge.
Bonne nouvelle, je sais pas trop. Mais c'est vrai que l'idée, c'était je pars des Cavaliers pour être leader.
Bah ouais.
Aller aux Lakers pour ne plus être leader, c'est vrai que ça n'a pas énormément de sens.
On verra cet été en tout cas si ça se concrétise et si le projet de LeBron au-delà de Space Jam 2 aboutit. Évidemment.
Ça ressemble un peu à ça pour l'instant.
Dernière petite question en ce qui vous concerne en tout cas, Xavier, quels sont vos projets sur Bein pour l'année prochaine? De nouvelles choses, de nouvelles émissions, des nouveaux reportages qui pourraient nous mettre en haleine? Là, vous avez déjà des idées, j'imagine?
Des idées, oui, ça, des idées, j'en manque pas. Maintenant, il va falloir les mettre en œuvre. Ouais, j'ai peut-être une mensuelle, ouais, qui pourrait arriver. Et surtout, on va énormément travailler autour du match de Paris. On va essayer de faire monter un peu la sauce jusqu'au match de Paris avec des émissions assez un petit peu plus particulières que jusque là. Et plus on va se rapprocher du match, ouais.
Rappelez-nous l'affiche et la date.
On va vraiment faire ce match-là comme étant vraiment le match de l'année, alors que ça reste un simple match de saison régulière. Sauf que quand on vend les places en 5 minutes, parce que je peux vous garantir que toutes les places seront vendues en 5 minutes, ce sera un énorme événement et ce sera le 24 janvier, Milwaukee-Charlotte.
Et elles ne compteront pas 12 euros, il me semble. Non.
Comment?
Elles ne compteront pas 12 euros, normalement, les places.
Je pense que ce sera un petit peu plus cher.
Bon, merci en tout cas pour cette grosse page NBA. C'était super sympa. On ne fait pas autant de NBA d'habitude, hein, mon cher Brice.
Malheureusement.
Bon, en tout cas, maintenant.
Il en faudrait plus.
Du coup, on a une belle page NBA, mais on est un peu pressé.
En fait.
Et maintenant, on est un peu pressé pour Roland Garros, les amis. Hein. Donc maintenant, c'est le mode pressing, évidemment.
Time Sport, le mode pressing.
Nassim Bourras, tu as une minute devant toi pour me dire ce que tu attends de ce Roland Garros, la victoire de Gaël Monfils, je crois.
Donc, pas grand chose en fait. ça va être dur de parler une minute d'un potentiel espoir qui va vite devenir un rêve éveillé. Oui, parce que moi, ça fait des années que je rêve d'une victoire de Gaël Monfils, qui est, à mon sens, le tennisman français le plus proche d'obtenir le titre final de succéder à Yannick Noah. Voilà, malheureusement, voilà, les blessures et son irrégularité ont fait qu'il n'a pas pu prétendre à prendre la succession de Noah.
Et donc, cette année, réellement, tu vois quoi, Roland Garros? Pour toi, c'est l'évidence Nadal, la relève team, Djokovic, comme ça, qui nous surprendrait?
J'ai envie de te dire l'évidence Nadal, parce qu'en fait, les autres jeunes pousses du tennis mondial qui vont prendre la relève ne l'ont pas encore prise, justement. Ils sont encore phagocytés par les deux gros monstres que sont Nadal et Federer, alors qu'ils sont encore
c'était
sur...
Quand tu regardes comme ce qui s'est passé récemment dans les Master 1000, enfin là sur la saison de terre battue, c'était quand même assez équilibré. Hein. Honnêtement, ça n'a jamais été aussi ouvert.
Mais ça, ouais, on a vu de nouvelles têtes, Cecchinato, on a vu Fognini qui a réémergé, on a aussi
mais on n'a pas encore assisté au basculement.
Tsitsipas qui a été bon, évidemment.
On n'a pas encore assisté à ce basculement qui a fait que les Nadal, Federer, les monstres d'un ancien temps finissent justement par être mis sur le côté. On voit encore que ces deux-là peuvent encore truster des titres, notamment celui-là, Roland Garros, qui arrive. Donc, je pense encore que Nadal a ses chances pour obtenir un énième titre.
Un douzième titre.
Douzième titre.
Le mec, il va obtenir 12 titres du Grand Chelem, rien qu'à Roland Garros. Et on n'aura pas Kyrgios. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'a pas envie de venir. Il n'a pas envie de voir Nadal soulever une douzième fois le trophée.
Nadal ou Djokovic, il a vu le tableau et il s'est enfui. On l'a vu la semaine dernière. C'était à Rome, il me semble. Casser des chaises, jeter sa raquette, partir en plein milieu d'un match alors qu'il y avait égalité. Lui, il lui manque un grain. Mais sur
Roland Garros. Il a un grain plutôt. Il manque le casque, mais il a un grain.
Mais il apporte un grain de folie au tennis.
Il apporte un grain de folie.
Qu'est-ce que c'est beau de le voir jouer, mais
pathétique parfois.
C'est dommage. Mais... C'est dommage. Par contre, sur Roland Garros, moi, je vois plus Djokovic.
Ton favori, c'est Djokovic. Ouais,
pour moi, c'est Djokovic. Il est quand même très très solide et il va avoir plus d'envie, je pense, que les autres. Il peut faire le grand chelem sur deux années consécutives, sur deux années à cheval plutôt. Et je pense qu'il a plus de qualité que les autres. Et Nadal, son physique, il commence à vraiment.
15 secondes, toi ton favori vraiment.
Le cœur me dit Tim mais la raison me dit Djoko.
Djoko
effectivement, pour les
qui battrait raisons, donc du coup peut-être Nadal.
Je pense que Djoko il monte en puissance, il s'est programmé pour ça, et effectivement au Grand Chelem sur deux saisons. Et voilà.
Merci à tous, en tout cas merci Brice Taï d'avoir été avec nous. Djouba Houchen, Nassim Bourras et notre invité Xavier Vossion, l'un des meilleurs en NBA, en basket tout
comment
court.
Ça, un des.
De chez Bein Sport. A très vite dans Time Sport la semaine prochaine.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.